Voilà.
Yeah.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, C'est pas du vent fête ses 10 ans. 10 ans, c'est la fin de l'enfance. Et si c'était ce que nous pouvions souhaiter à l'humanité ? Un sursaut de maturité. Car oui, il va falloir assumer l'impact de toutes ces années où nous avons dépensé sans compter un capital naturel limité. Mais c'est un anniversaire, alors ne soyons pas trop angoissants. Fait-on dignement cet événement ? De l'échec de la conférence de Copenhague sur le climat, nous sommes arrivés à l'accord de Paris. Youpi ! Plus un degré de réchauffement global, nous dit-on, deux ou trois par endroit. Mais quoi ? Quel est ce bruit ? Des millions de citoyens dans les rues ? Une jeune fille de 16 ans qui défie les plus grands ? Faudrait-il désormais rendre des comptes ? Et oui, c'est cela qui a changé en 10 ans. La fin de l'insouciance, la fin de l'indifférence. Et il va falloir nous y faire. Alors en cet anniversaire, je nous souhaite plein de moments citoyens. Ça commence bien. Nous sommes réunis ici à l'espace Grande Contrôle à Paris avec des invités, des amis. Vous pouvez nous écouter, nous regarder en Facebook Live. Oui, le bilan carbone d'Internet est déplorable, mais nous n'allions quand même pas fêter ça tout seul. Et puisque nous devons échanger, partager, créer des solidarités, eh bien commençons dès maintenant en partageant ce moment.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à toute l'équipe de réalisation de C'est pas du vent. Par cette petite vidéo, je voudrais vous souhaiter un très joyeux 10e anniversaire.
Voilà, bravo, c'est pas du vent. Bravo, Anne-Cécile Bra. Tous les jeunes de 15 pays d'Afrique réunis ici vous disent formidable anniversaire. Parce que grâce à C'est pas du vent, j'y vais courir partout dans le monde. On y va.
C'est pas du vent.
Joyeux anniversaire à cette émission utile, nécessaire. Bravo pour vos 10 ans et j'espère que vous en avez autant devant vous.
Bon, on est entre nous, hein. Alors autant se l'avouer. Si à 50 ans, t'es écolo et que t'es toujours pas passé sur C'est pas du vent, ça craint. Un grand bravo à François et Anne-Cécile pour le boulot accompli sur C'est pas du vent. Une émission incontournable et qui traverse les frontières, qui les dépasse même pour encourager les initiatives et nous transmettre un message de mobilisation pour rendre ce monde plus vivable. Bon anniversaire, c'est pas du vent. À bientôt.
Merci à Sédou Kaboré de la ferme de Guié au Burkina Faso, à Sena Aluka et tous les jeunes volontaires pour l'environnement du Togo, à Nicolas Hulot à Paris, à Jean-Marc Gansil de l'association Globis qui lui était à La Réunion. Vous venez de les entendre. Et merci à tous les auditeurs qui nous ont adressé de nombreux messages. Alors, pour fêter cet événement, nous sommes bien entourés. Je vous présente tout de suite nos invités. Nous les avons souvent reçus dans C'est pas du vent. Et pour cause, ce sont deux éminents climatologues, de bons pédagogues, presque des lanceurs d'alerte, qui déploient toute leur énergie à nous informer avec leur rigueur scientifique sur l'ampleur du changement climatique et de ses conséquences. Bonjour Jean Jouzel.
Bonjour Anne-Cécile et merci pour ces 10 ans.
Merci à vous. Bonjour Valérie Masson-Delmotte.
Bonjour, bon anniversaire.
Merci beaucoup. Jean Jouzel, vous êtes climatologue, glaciologue. Vos recherches ont participé à la compréhension du dérèglement climatique. Vous avez été vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, de 2002 à 2015, vice-président du premier groupe. Voilà, je vois que vous vouliez rectifier. Vous avez bien raison. Et je me souviens de nos premières discussions, il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis ?
Alors, qu'est-ce qui a changé ? Je pense que vous l'avez dit en partie, Anne-Cécile. C'est d'abord le fait que le réchauffement climatique est devenu quelque chose, je dirais malheureusement, de concret. Il y a effectivement 30 ans, ou pour moi peut-être près de 40 ans, j'ai commencé à faire mes premières conférences sur le réchauffement climatique dans les années 80, je crois. On parlait du réchauffement climatique comme de quelque chose qui allait arriver. Là, maintenant, c'est là. Et voilà, c'est une première chose. Et puis aussi, quand même, il y a cette mobilisation, et vous l'avez rappelé, Anne-Cécile, Greta Thunberg a joué un grand rôle. Et je pense que cette mobilisation, si nous avions eu une Greta Thunberg il y a 20 ans, peut-être n'en serions-nous pas là.
Valérie Masson-Delmotte, vous êtes paléoclimatologue et coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC. Vous avez pris le relais, en fait, en 2015 de Jean Jouzel. Ça m'aide à être plus précise pour ma question. Vous avez pris donc le relais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler En quelques mots, comment fonctionne le GIEC pour qu'on comprenne bien l'importance?
En fait, c'est un processus de co-construction de connaissances. On répond à une demande des gouvernements de faire un point sur des thématiques qui les intéressent par rapport à la gestion de risque, finalement, pour le changement climatique. Donc, on répond à leurs attentes. Ensuite, on mobilise des chercheurs du monde entier qui, volontairement, vont passer en revue l'état des connaissances scientifiques sur la base des travaux de recherche publiés partout. Et puis, ils vont évaluer ce qui est robuste, qui résiste à l'examen critique, ce qui est émergent, pourquoi parfois on a des travaux qui ne convergent pas parce qu'on manque de connaissances, et puis les limites de ces connaissances. Et à partir de ce travail formidable, leur dévouement, il est impressionnant, on va distiller une synthèse, un résumé pour décideurs d'une vingtaine de pages, et on boucle la boucle, on le rend au gouvernement et avec eux, on s'accorde sur la formulation de ces conclusions de sorte à ce que ce soit scientifiquement juste, exprimé dans un langage clair. Et d'ailleurs, parfois, souvent, ça permet d'améliorer le jargon des scientifiques, cette dernière étape.
Oui, ça, ça nous aide bien, nous, les médias, parce que c'est vrai que Jean Jouzel, je me souviens, au départ, quand on faisait des interviews il y a 10 ans, on parlait pas tout à fait le même langage, vous et moi, et oui. On s'est un peu accordé depuis.
Oui, je crois qu'on s'est accordé, mais... je pense que le GIEC a joué un rôle très important dans notre communauté. C'est vrai que ça reste toujours un peu du jargon quand même, mais bon, je pense qu'on essaye de s'améliorer. Bien sûr, le GIEC, c'est d'abord destiné aux décideurs politiques. Voilà, c'est la première cible, mais c'est aussi une cible, le grand public en général, les décideurs politiques à tous les niveaux, et puis aussi l'enseignement, bien sûr. Je sais que Valérie va en parler. L'objectif est aussi vraiment de se tourner vers les jeunes et donc de parler de façon compréhensible.
Valérie Masson-Delmotte.
Nos rapports, ils sont disponibles en ligne sur le site du GIEC, ipcc.ch. La matière scientifique complète, elle est en anglais, mais on a des réponses à des questions fréquentes, les résumés qui sont traduits dans toutes les langues de l'ONU, le français, l'arabe, l'espagnol, le russe ou le chinois, pour les rendre accessibles. Et en fait, en faisant cet exercice-là, on fait un travail de maturation des connaissances. C'est une ressource formidable pour tous ceux qui veulent enseigner, pour tous ceux qui veulent s'approprier ces éléments-là. Et maintenant, on essaye de plus en plus d'en faire finalement des éléments pour les citoyens, pour qu'il y ait une appropriation.
Alors, le rythme de publication des rapports s'accélère. Hein. Ils sont chaque fois, enfin, moi, pour essayer de les lire, je m'accroche, hein, mais ils sont chaque fois plus anxiogènes. Par exemple, le dernier rapport sur les océans et la cryosphère qui a été publié la semaine dernière et rédigé par une centaine de scientifiques qui ont compilé quand même près de 7000 publications, conclut que les océans se réchauffent, s'acidifient, les glaciers et la banquise fondent, le niveau de la mer monte et tous ces phénomènes s'accélèrent.
Alors, ce qui s'accélère en particulier, c'est la montée du niveau des mers. Et elle accélère parce qu'on avait les océans qui se réchauffaient, qui absorbent le plus gros du réchauffement, finalement, à la surface de la Terre, qui nous aide. Puis on a les glaciers qui reculent. Et depuis quelques décennies, on a le Groenland, cette immense masse de glace terrestre qui fond, et puis certains secteurs de l'Antarctique qui s'écoulent plus rapidement. Et aujourd'hui, ce sont ces glaces qui font le plus monter le niveau des mers. On a aussi une augmentation des phénomènes de submersion, puisque quand le niveau moyen des mers monte, on a plus de chances de dépasser un certain niveau élevé. Et donc ce qui se passe dans ces régions qui semblent lointaines, le fond des océans ou bien les régions polaires, les hautes montagnes, ça affecte chacun d'entre nous en réalité. Alors ce qui se passe dans les hautes montagnes, ça va affecter les populations locales, mais aussi en amont, celles qui, dont l'abondance de l'eau, la qualité de l'eau dépend du stockage de l'eau dans la neige, dans les glaciers. Ce qui se passe dans les régions polaires, ça participe à des phénomènes amplificateurs du réchauffement climatique. Le recul de l'enneigement, le recul de la banquise, ça amplifie les changements du côté de l'Arctique et en fait au niveau planétaire. Et puis les océans, donc leur température change, des vagues de chaleur plus intenses qui détruisent en fait le vivant, les récifs de coraux, les forêts de laminaires, qui déplacent les espèces de poissons. Et puis un océan qui s'acidifie, qui perd de l'oxygène parce que les eaux de mer se mélangent moins bien, ça va affecter en fait les ressources en pêche et tous ceux qui en dépendent pour les protéines, pour leur sécurité nutritionnelle ou alimentaire. Et puis j'ai déjà mentionné la montée du niveau des mers qui concerne tous les littoraux. C'est en 2050 un milliard de personnes qui vont vivre sur le littoral.
Et puis les courants marins qui sont aussi bouleversés, et vous le disiez, les océans qui se réchauffent, et ça a des conséquences, ça déclenche des catastrophes naturelles. Jean Jouzel.
Oui, alors il y a ce lien entre la température de l'océan et effectivement les grands cyclones, les risques. Alors c'est un peu plus compliqué que simplement de dire qu'il ne suffit pas que la température de l'océan augmente pour que les cyclones se mettent à, disons, à être plus violents, mais c'est quand même un des paramètres importants. Le réchauffement des océans est un des ingrédients qui fait et qui fera que les cyclones seront plus violents, plus intenses, plus destructeurs. Et effectivement, ce lien entre l'océan et les extrêmes climatiques en général est bien là.
Alors, il y a un contraste flagrant quand même entre l'ampleur des phénomènes que vous décrivez et l'inaction politique. Un contraste qui fait peur souvent et qui pousse les gens à descendre dans la rue avec plusieurs modes d'action. Alors, pour en parler, j'invite à nous rejoindre Pauline Boyer d'Alternatiba, Carole de Extinction Rebellion et Mathilde Himmer, cofondatrice du collectif des Gilets citoyens qui est à l'initiative de la Convention des citoyens pour le climat. Pauline Boyer. Alternatiba, c'est un mouvement citoyen qui a été créé à Bayonne, dans le sud-ouest de la France, en 2013. Ensemble, nous sommes une force immense. C'est le slogan. Immense, ça veut dire quoi? C'est quoi Alternatiba aujourd'hui? L'ampleur du mouvement.
Depuis le début du mouvement, on a sensibilisé, on a fait passer à l'action des dizaines de milliers de personnes et on a plus de 800 000 personnes qui ont participé aux événements d'Alternatiba. Mais ce qui est intéressant, et vu que là on est dans les 10 ans de C'est pas du vent, c'est qu'en 2009, c'était la COP de Copenhague qui avait mobilisé énormément la société civile qui attendait un accord ambitieux pour le climat qui n'a pas été... signé là-bas. Et il y a eu une démobilisation énorme dans les années qui ont suivi. Donc Alternatiba a été créée en 2013, ANV COP 21, la branche de désobéissance civile en 2015, pour justement rallumer cette mobilisation citoyenne parce que la COP 21 avait lieu en France. Et cette dernière année là qui vient de passer depuis septembre 2018, où il y a eu des marches climat sans précédent, le mouvement des Gilets jaunes qui a amené le mouvement social et qui a amené à faire le lien entre justice climatique, justice sociale. On a l'affaire du siècle, donc ce recours,
cette pétition qui a réuni plus de 2 millions de signatures.
Voilà, c'est pareil, c'est inédit. Et les actions de décrochage de portraits présidentiels pour dénoncer l'action climatique du gouvernement, qui ont déjà fait passer plus de 1000 personnes à la désobéissance civile dans ce type d'action-là. On voit que le mouvement grandit, on a de plus en plus de jeunes qui sont présents, qui veulent faire des actions.
Alors vous organisez des villages, ça c'est extrêmement intéressant, on a fait pas mal de reportages dans C'est pas du vent sur ces villages, des villages des alternatives. Vous en avez fait en France, mais il y en a aussi beaucoup dans les capitales en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ça s'est répandu de par le monde. Alors, quel est le principe?
Alors, le principe des villages des alternatives, c'est déjà... On doit trouver des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, il faut changer nos modes de vie. Et on sait déjà le faire. On sait comment cultiver la terre autrement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et en plus arrêter de contaminer l'eau, l'air, ce qu'on met dans notre corps, etc.
Mais quelquefois, on ne sait pas ce qu'on peut changer dans son quotidien. On se lève le matin, on entend Valérie Massot-Delmotte ou Jean Jouzel à la radio, on se dit « Oh, le ciel va nous tomber sur la tête ». Mais si, Valérie, vous nous racontez rarement des bonnes nouvelles.
Oui, mais on montre en fait dans ces rapports et les trois derniers rapports du GIEC à quel point on peut agir. Oui. Où sont tous les leviers d'action? Et il y en a à l'échelle du citoyen, il y en a à l'échelle de la collectivité, il y en a à l'échelle des États, il y en a plein en fait.
Voilà, vous vulgarisez finalement ces recommandations qu'il y a dans les rapports du GIEC et du coup en les centralisant dans les villes et les places des villages pour que les gens sachent ce qui existe autour d'eux. Et ça, c'est extrêmement puissant.
C'est exactement ça. C'est le temps de un ou deux jours, on envahit l'espace public et on demande aux gens qui portent ces alternatives dans tous les domaines de la vie quotidienne de les amener avec eux, ce qui permet d'échanger sur le fait que concrètement, on peut rentrer par plein de portes vers ce village-là. Donc ça sensibilise un grand nombre de personnes. Et ça permet aussi de poser cette question de le changement, il ne peut pas seulement être individuel. Il a besoin d'être systémique. Et ça, c'est aussi un des objectifs de ces villages, c'est que pour réorganiser la société, et on a besoin d'une action collective, et c'est le message des villages également.
Alors à vos côtés, Carole, du mouvement Extinction Rebellion, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile.
Ce mouvement, c'est une autre philosophie. Il est très récent, hein, puisqu'il a été lancé il y a à peine un an en Angleterre. Mais il se répand comme une traînée de poudre. Aujourd'hui, Extinction Rebellion, c'est incroyable. En moins d'un an, c'est présent dans combien de pays ?
Dans 55 pays. Donc effectivement, c'est allé très très vite. Hein. Comme vous le disiez, ça a commencé au Royaume-Uni. Assez rapidement, ça s'est étendu dans d'autres pays d'Europe, donc très, très, très rapidement en France. La déclaration de rébellion a eu lieu au mois de mars en France. Et effectivement, on voit le mouvement avec le nombre d'activistes et de sympathisants qui grossit de jour en jour, en particulier en ce moment, puisqu'il y a une semaine d'action internationale avec la rébellion internationale d'octobre, donc à Paris, bien sûr, mais aussi dans le monde entier.
Alors, vous vous présentez comme un mouvement mondial de désobéissance civile en lutte contre l'effondrement écologique et le réchauffement climatique. Vous allez d'ailleurs faire des formations de désobéissance civile pendant tout le mois d'octobre ici à Grande Contrôle. Alors là, on vous voit, Carole, assise gentiment avec nous sur un tabouret, mais il y a une vidéo qui circule où on vous voit vous faire gazer par les forces de l'ordre sur un pont à Paris. Parce qu'Extinction Rebellion, c'est ça, c'est on bloque là où ça fait mal.
Oui, alors je préciserai même que c'est un mouvement qui est en lutte contre l'inaction des gouvernements. Donc effectivement, l'objectif, comme vous le disiez, hein, on a besoin d'un changement systémique. Et bien sûr, on peut tous faire des actions en faveur du dérèglement climatique de manière à l'éviter. Mais ce qui a été calculé, c'est que si nous tous sur Terre, on est très vertueux, on va réussir à diminuer, par exemple, notre empreinte carbone de seulement 20 à 25 %, ce qui est beaucoup trop peu. Ce qu'il faut, et c'est la deuxième revendication d'ailleurs d'Extinction Rebellion, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à un bilan carbone zéro. Donc il faut réduire énormément. Et là, on a besoin de nos gouvernements pour nous aider. On a besoin de changer complètement de système. Il se trouve que les informations, on les a depuis des années. Les scientifiques sont là pour nous les donner presque quotidiennement. Et on s'interroge, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de nos gouvernements ? Pas grand-chose. Des petites choses, mais pas grand-chose. Et là, du coup, on est là pour effectivement créer différents types d'actions.
Et en tout cas, vous, enfin pas vous particulièrement, mais le mouvement Extinction Rebellion répond à beaucoup d'aspirations de la population et ça se juge à la vitesse à laquelle ce mouvement se répand. Mathilde Immer, bonjour.
Bonjour et joyeux anniversaire.
Merci beaucoup. Ce qui est en jeu à travers ces mobilisations, c'est notre rapport à la démocratie. Finalement, vous avez accepté de participer à la Convention citoyenne pour le climat qui a été mise en place par Emmanuel Macron à l'issue du grand débat national pour répondre au mouvement des Gilets jaunes. C'était l'une des revendications qui est ressortie du grand débat national. Donc pour vous, c'est une solution, cette Convention citoyenne pour le climat, dont il faut rappeler peut-être le principe ?
Alors peut-être avant, c'est notre rapport à la démocratie qui est questionné. Pourquoi est-ce qu'il est questionné aujourd'hui, que ce soit par les actions des obéissances civiles d'Extinction Rebellion, que ce soit par les marches climat qu'on fait depuis des semaines et des semaines, que ce soit le mouvement des Gilets jaunes. Aussi parce que si dire qu'aujourd'hui on est en dictature, ce serait trop violent et insultant pour un grand nombre de pays aujourd'hui international, je pense qu'on peut dire qu'on est en oligarchie ou en train de passer à un système oligarchique en France. Ça, je pense qu'on peut le reconnaître. Et du coup, il y a un enjeu de démocratie, de savoir comment est-ce que les citoyens peuvent reprendre le pouvoir et placer eux-mêmes le curseur. Et on le voit sur la question du mouvement des Gilets jaunes, l'étincelle qui a lancé le mouvement, c'est la taxe carbone. Politique, publique, climatique. Qui a été faite de manière totalement injuste socialement et qui a déclenché une traînée. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu pour les citoyens à placer le curseur. Et pourquoi je dis ça et pourquoi moi j'y crois ? Je suis militante écolo à la base et je suis venue aux questions de démocratie pour une raison simple, c'est que quand on regarde ce que nous disent les scientifiques, quand on regarde les actions qu'il faut mettre en place, et vous le disiez, c'est drastique, c'est radical. Si on regarde par exemple un rapport qui a été fait par le cabinet Bell Evolution, on voit qu'on nous dit qu'il ne faut plus prendre l'avion, vol intérieur en France. Il faut beaucoup moins utiliser la voiture. Il faut quasiment plus manger de viande. Si demain, un gouvernement met ça en place, il y a la moitié des gens, les trois quarts si on écoute Bourdin, qui sont dans la rue. Et donc oui, c'est une question de démocratie. C'est-à-dire qu'on sait, nous écolos, les solutions, et il y en a qui sont très joyeuses et très bien, et qu'on voit dans les villages alternatifs proposés par Alternativa. Néanmoins, il y a un gros enjeu de où est-ce qu'on place le curseur, et c'est là que la question de démocratie arrive.
D'où la Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort sur 30 000, qui représentent donc la France. Ils ont été choisis là, hein, durant le mois de septembre. La première discussion, c'est le week-end du 3 à 4 octobre. Et il va y avoir pendant 6 week-ends des réunions jusqu'au mois de janvier.
Exactement. L'idée, c'est d'avoir une mini-France Quand on dit Mini-France, c'est des jeunes, des vieux, des pauvres, des riches, des pas du tout diplômés, des très diplômés, à l'échelle de ce qu'est la France, c'est-à-dire dans les mêmes proportions que ce qu'est la France aujourd'hui. Avec cette idée-là que les Français ne sont pas stupides et que si on leur laisse le temps de délibération avec la qualité d'intervenant, et Valérie interviendra dès la première session, par exemple, pour les scientifiques et le GIEC, et ben les Français sont capables eux-mêmes de définir des mesures structurantes pour faire face au changement climatique. L'objectif, c'est quoi ? C'est qu'ils arrivent à définir des mesures qui permettent de réduire d'au moins 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Si on a accepté de le faire et de le faire sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a poussé pour ça. On a poussé avec la raison, c'est celle que je vous ai évoquée tout à l'heure, le lien entre démocratie et climat. Et on a poussé aussi avec, non pas une naïveté, mais des lignes rouges, des conditions très claires pour que ce ne soit pas un grand débat bis, mais qu'il y ait un vrai potentiel de débouché. Un engagement du président qui a été pris, qui est ferme, qui se retrouve dans la ligne de mission, qui est sans filtre, possibilité de passer au référendum, au règlement, au Parlement. Ce qui veut dire là que les citoyens qui proposeront des mesures, je l'espère, les plus radicales possibles en faveur du climat, pourront, sous ce quinquennat, avoir un débouché concret.
Jean Jouzel, Valérie Masson-Delmotte, vous aussi, vous avez accepté de participer à cette Convention citoyenne pour le climat. Finalement, vous êtes devenus presque, malgré vous, des scientifiques militants, Jean Jouzel ?
Oui, donc moi je fais au titre du Conseil économique, social et environnemental qui organise cette convention citoyenne. Bon, je le fais aussi au titre de scientifique, je pense. Mais oui, je suis comme Mathilde, assez, vraiment extrêmement intéressé par le processus et j'ai l'espoir que, bien effectivement, on aura des mesures, enfin des propositions qui permettront au pays de respecter l'objectif. On a déjà du retard par rapport à cet objectif. Et c'est vrai que cet objectif, il faut y aller au-delà, la neutralité carbone en 2050. Et oui, je suis vraiment extrêmement intéressé, et, bon, très motivé et très impliqué également dans
donc
cette convention.
On va suivre
convention.
Ça de près, Valérie Masson-Delmotte.
Moi, il y a un an, j'ai demandé à ce que ce soit mis en place. J'ai demandé à ce que ce soit mis en place parce que j'ai été discutée sur les ronds-points près de chez moi, dans la banlieue semi-urbaine où j'habite, parce que les gens ont été horrifiés qu'on les accuse d'être contre l'action environnementale. Ils voulaient que ce soit juste. Donc j'avais fait une tribune pour ça. Je revenais d'Irlande, où le Parlement irlandais avait justement entendu les résultats de l'Assemblée citoyenne, qui était formidable en termes d'ambition, finalement, en termes de réflexion sur ce qu'on veut transmettre aux plus jeunes, quel monde on veut leur laisser. Et ce qui était formidable dans la réflexion citoyenne en Irlande, c'était de se dire « l'action climat, c'est bien ». Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut une action climat au service de l'amélioration de la qualité de l'air, d'une alimentation saine, d'emplois non délocalisables. Et donc, c'était de la préservation des milieux naturels auxquels on tient, de la transmission. Et donc, c'était en fait toute cette approche-là qui était passionnante et qui faisait parfaitement écho à ce qu'on a dit dans les derniers rapports du GIEC, qui étaient des transitions justes, des transitions où on protège les plus vulnérables et où on laisse personne derrière.
Alors, est-ce que les décideurs politiques sont réellement prêts à bouger ? On va en parler juste après. Une pause musicale, qu'est-ce qui bloque ? On va aussi essayer d'explorer tout ça juste après un moment de plaisir quand même. Hein. Allez, un peu de plaisir dans cette émission avec HK et ses amis Saltimbanque. Je vous laisse la scène.
Du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, broqua son âme contre du papier. Nous avons vaincu nos frères, nous avons pillé leurs terres, nous nous sommes déployés, abattus des millions d'arbres. Sans remords ni palabres, des forêts entières de papier. Pour l'Empire, nous travaillons, nous nous avilissons pour quelques bouts de pain. Et pour lui, nous croisons le fer, comme nos parents la guerre, comme nos enfants demain. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de pied. Ainsi l'homme devint un animal, croqua son âme contre du papier. Nous nous sommes trouvés un dieu d'or noir et de feu, de bronze et de papier. Nous lui avons dédié des temples, sacrifié pour l'exemple ceux qui n'avaient pas de papier. Nous avons, quand vint l'hiver, écrit sur des billets verts que Dieu protège l'Empire. Et jusqu'aux épines des roses, donner un prix à chaque chose, même à l'air que l'on respire. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, croqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, croqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, croqua son âme contre du papier.
HK et les saltimbanques pour les 10 ans de C'est pas du vent. Ben oui, 10 ans déjà que nous sensibilisons les auditeurs de RFI à la protection de l'environnement avec nos invités. François Gémen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géopolitologue, professeur à Sciences Po. Vous venez de publier un atlas de l'Anthropocène.
Effectivement.
Alors l'Anthropocène, ça veut dire quelque chose qui est quand même assez effrayant. Ça veut dire que l'homme est devenu une force géologique capable de modifier les cours des fleuves, les courants des océans, le climat et l'ensemble des éléments.
D'un point de vue géologique, c'est tout à fait effrayant. Ça veut dire qu'on peut désormais voir littéralement l'empreinte de l'homme dans les couches sédimentaires de la Terre. Ça veut dire que les hommes et les femmes qui habitent la Terre, et singulièrement les hommes, il faut le dire, sont devenus les premières forces de transformation de la planète, devant même les forces telluriques. Et donc ça justifie aux yeux des géologues la création d'une nouvelle période géologique qui va succéder à l'Holocène.
Alors cette entrée dans l'Anthropocène dont on entend beaucoup parler, c'est plus un symbole politique qu'une réalité scientifique en vérité.
C'est écrasant d'un point de vue géologique de penser que notre empreinte sur la Terre est devenue telle que ça justifie la création d'une nouvelle période géologique. Mais je crois que si on regarde le message politique, ça peut aussi être vu comme un message positif. C'est finalement l'idée de l'Anthropocène, c'est l'idée qu'on ne peut plus considérer la Terre et le monde comme deux entités séparées et qu'au contraire, notamment d'un point de vue de relations internationales, il faut parvenir à dépasser cette idée des nations et se rendre compte que les seules frontières qui vaillent, au fond, ce ne sont plus les frontières de nos pays, ni même les frontières de nos générations, mais ce sont les limites planétaires. Et donc, politiquement, l'Anthropocène, c'est une invitation à nous concevoir avant tout comme habitants de la Terre, comme terrestres.
Pierre Radan, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais que nous avons souvent reçu dans cette émission, disait que la question climatique, c'était la première question à laquelle l'humanité devait faire face de façon totalement internationale. C'est-à-dire qu'on peut, dans un pays, améliorer l'éducation, lutter contre la pauvreté, améliorer la santé, mais le climat, si tout le monde fait un effort, sauf les États-Unis, par exemple, ça ne marchera pas.
Bien sûr, je comprends que les gens puissent se dire finalement encore ces grands messes, encore ces grands sommets internationaux sur le climat, finalement, est-ce que ça sert à quelque chose quand on voit parfois les progrès très limités, même les reculs? Mais nous n'avons pas le choix. Le climat est par nature un enjeu international et ce qui se passe au Bangladesh aujourd'hui, c'est largement le cas de ce que nous avons fait hier. Et ce qui se passera demain dans les petites îles du Pacifique, c'est largement le cas de ce que feront les Américains, les Canadiens ou les Australiens aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas résoudre le problème climatique si on le pense uniquement à l'échelle de son propre pays. Et c'est d'ailleurs parfois ce qui m'inquiète un peu quand on a le débat sur les politiques climatiques. Très souvent, c'est un débat à l'échelle nationale. On fait par exemple une convention citoyenne sur le climat. Très bien, et c'est très important. Mais il faut parvenir à dépasser l'idée que chacun doit faire sa part. Quand on est citoyen d'un pays industrialisé, on doit faire davantage que sa part. Parce qu'on a une dette et parce qu'on a une responsabilité et simplement parce que c'est une affaire de solidarité avec les autres humains sur cette planète, dont la plupart sont les victimes des changements que nous leur infligeons avant d'en être les auteurs.
Alors il faut peut-être miser sur l'art du récit aussi pour nous aider sur l'émerveillement, sur l'émotion. C'est le rôle des artistes, des journalistes. Alors nous en avons parmi nous, hein. J'invite le réalisateur Luc Jacquet et le journaliste Samuel Turpin à nous rejoindre. Installez-vous. Alors Luc Jacquet, vous êtes écologue de formation, vous vous êtes fait connaître du grand public par la marche de l'empereur, c'était au début des années 2000, qui nous a fait découvrir donc l'histoire des manchots empereurs et de leur cycle de reproduction au cœur de l'Antarctique. Depuis, vous avez créé votre association Wild Touch, dont le slogan c'est « On protège mieux ce que l'on aime ». C'est ça votre moteur ?
Le langage du cinéma a cette puissance, qu'elle a la capacité à s'adresser à beaucoup de gens. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont ici sont d'accord pour dire qu'il faut quitter le cercle des gens qui sont convaincus pour aller chercher ceux qui ne le sont pas. Et je pense que si on considère aujourd'hui les problèmes qu'on a, qui sont finalement, si on observe bien, il s'agit de prendre soin de l'endroit dans lequel on vit. Et pourquoi ça passe pas ? Peut-être qu'il y a eu des malentendus, peut-être qu'on a mal expliqué. Et moi qui me sens comme un médiateur entre la science et le grand public, qui me sens aussi comme un raconteur d'histoire, je me dis qu'on a probablement mal fait notre boulot. Et il faut expliquer encore. Et c'est vrai que quand je vois aujourd'hui ces jeunes générations qui sont en train de manifester dans la rue, je dis on peut pas les laisser tout seuls. On peut pas les laisser tout seuls avec ces problèmes-là. Et je pense qu'il faut expliquer encore. Et l'émerveillement est une très très belle source de motivation, je crois.
Alors il y en a peut-être qui sont descendus dans la rue parce qu'une marche de l'empereur, vous en avez fait une deuxième. Vous êtes retourné en Antarctique, vous êtes retourné voir les manchots, et là, ce que vous avez découvert vous a, comment dire, fait pleurer, on peut le dire ça ?
Je ne peux pas concevoir de laisser cette planète qui m'a émerveillé, qui m'a profondément inspiré, qui me fait avancer, dont j'ai besoin. Je ne peux pas imaginer, on parlait des éléphants, des lions tout à l'heure, laisser une planète où les générations qui arrivent derrière nous ne pourront pas voir ça. C'est-à-dire ne pourront pas être émues par cette émotion fondamentale, puissante, intime. C'est pas possible, c'est tout simplement pas possible. Et effectivement, quand vous voyez pleuvoir en Antarctique, vous dites qu'il y a quelque chose qui va pas. Quand vous voyez ces espèces qui sont en train de s'étioler de manière drastique, hein, il arrive parfois aujourd'hui en Terre Adélie, bord du continent Antarctique, un véritable oasis de vie que 90% des poussins de manchots Adélie, voire davantage, n'arrivent même pas à la mer puisqu'ils vont être tués littéralement par la pluie. C'est un raccourci, mais c'est quand même ainsi. Vous dites là qu'il faut qu'on fasse quelque chose.
Samuel Turpin, bonjour.
Bonjour.
Vous, vous êtes journaliste, vous êtes lancé dans une aventure avec Humans and Climate Change Stories qui consiste à suivre l'impact du dérèglement climatique sur 10 familles dans une dizaine de pays pendant 10 ans. Vous exposez d'ailleurs une partie de vos photos ici à Grande Contrôle pendant tout le mois d'octobre. Vous avez déjà effectué de nombreux reportages qui vous ont permis de voir les conséquences du dérèglement climatique. Vous êtes venu en parler à plusieurs reprises dans C'est pas du vent. Vous êtes allé par exemple au Mali, où on voit clairement, hein, moi j'ai eu malheureusement la chance aussi de le constater en Afrique, le réchauffement climatique est présent au quotidien pour les gens. Et vous, vous avez vu à quel point ça exacerbait les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, ces derniers mois, hein, on entend de tristes nouvelles venant du Mali. On a aujourd'hui environ 438 personnes, je crois, à ce jour, décédées, massacrées même, hein, pour certaines d'entre elles, dans des villages, dans des conflits entre éleveurs et cultivateurs, parmi des communautés entre Peul et Dogon qui, jusque-là... cohabitent très très bien, sans aucun problème. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en effet, les conséquences, les effets du dérèglement climatique lancent une compétition autour des ressources naturelles, autour de l'eau, autour des terres arables, bien entendu. Et tout ça exacerbé par des dizaines de milliers de déplacés du conflit qui vient du Nord depuis 2012. Et tout ça devient aujourd'hui difficilement absorbable, en fait. On a une surconcentration de population autour de ces ressources naturelles.
Et évidemment, surtout autour de l'eau.
Et autour de l'eau. Et bien évidemment, ça lance aujourd'hui des conflits entre éleveurs et cultivateurs. Vous ajoutez à ça la présence attendue des autorités, mais qui aujourd'hui sont complètement absentes pour faire l'arbitrage. Et vous avez aujourd'hui une poudrière avec des jeunes qui se lancent dans des milices d'autodéfense et qui n'ont d'autres perspectives aujourd'hui pour aider leur famille à vivre dans cette jeune génération que de se lancer dans l'aventure de la migration, soit très loin, soit à Bamako ou à Ouagadougou, ou dans des mines d'or à proximité dans des conditions d'esclavagisme moderne, ou dans ces fameuses milices d'autodéfense pour protéger les acquis. Et en plus, ne nous tromperons pas, ce sont des groupes militaires aujourd'hui qui leur donnent les armes.
François Gémen, c'est là où on fait le lien entre dérèglement climatique, migration, insécurité.
évidemment, le changement climatique est vraiment quelque chose de matriciel. C'est-à-dire que c'est vraiment la matrice de tous les grands enjeux du XXIe siècle. On ne peut pas, aujourd'hui et demain, par exemple, gérer l'émigration internationale si on ne gère pas aussi le changement climatique. On ne pourra pas arriver aux objectifs de développement durable si on ne gère pas le changement climatique. On ne pourra pas avoir un monde prospère et en paix si on ne gère pas le changement climatique. Et on ne pourra pas non plus gérer les grands enjeux de terrorisme international si on ne gère pas aussi le changement climatique. Et donc tous ces enjeux sont profondément liés les uns aux autres et dépendent de la manière dont nous allons répondre au changement climatique.
Mais en même temps, que ce soit nos auditeurs qui nous écoutent en Afrique, c'est un peu la magie de RFI, ou nos auditeurs qui nous écoutent ici en France ou dans d'autres pays en Europe, ceux qui sont en Afrique n'ont pas envie de partir et ceux qui sont ici n'ont pas forcément envie de les accueillir. Donc on va assister à quoi ?
Je pense que le problème aujourd'hui, notamment singulièrement en ce qui concerne l'immigration, c'est qu'on est toujours dans une approche réactive. C'est-à-dire qu'on attend que le problème surgisse, on attend qu'il y ait une crise humanitaire, et généralement on va même laisser pourrir cette crise humanitaire de manière à alimenter les populismes et les nationalismes. Aujourd'hui, il faut réaliser que l'immigration climatique, ce n'est pas juste un risque futur que nous allons pouvoir éviter, mais c'est une réalité déjà aujourd'hui, d'où l'importance des travaux et des récits qu'on vient d'évoquer, et que le mieux que nous puissions faire, c'est d'essayer de les organiser et de les anticiper dans l'intérêt à la fois de ceux qui doivent migrer et aussi dans l'intérêt des sociétés d'origine et des sociétés d'accueil.
Samuel Turpin, il n'y a pas que dans les pays chauds qu'on souffre du changement climatique. Vous êtes allé au Groenland aussi ?
Oui, au Groenland, là, on a un phénomène complètement différent. La fonte de la glace offre aujourd'hui 4 opportunités pour le Groenland. D'une part, des nouvelles voies maritimes qui pourraient réduire de 40% le fret entre l'Asie et l'Europe. L'exploitation possible des ressources d'hydrocarbures, le pétrole, les minerais, dont les terres rares. 80% aujourd'hui des terres rares sont monopolisées par les Chinois. Donc évidemment, il y a un véritable intérêt et un engouement autour
Mais
de
là,
ça.
Pour certains, ça peut être vu comme une conséquence positive du changement
Absolument.
Climatique.
Absolument. Et c'est la quatrième ressource, ce sont les ressources halieutiques, le poisson, avec, par les effets du dérèglement climatique, des bancs de poissons qui quittent l'Atlantique Nord pour venir sur les eaux froides. Et donc, aujourd'hui, il y a une course à la pêche, voire à la surpêche, autorisée par les autorités groenlandaises. Et ça pose quoi comme problème ? Ça pose qu'aujourd'hui, des pêcheurs qui sont encouragés pour aller pêcher s'endettent beaucoup avec de nouveaux équipements. Et Nils, le pêcheur que nous avons suivi pendant plusieurs semaines, se retrouve en surendettement parce qu'il n'y a plus de poissons, parce qu'il ne croise plus de poissons et qu'avec ses dettes, il ne résiste pas plus de 2 mauvaises saisons.
Luc Jacquet, vous avez visité beaucoup de pays pour votre association Well Church. Vous avez fait beaucoup de documentaires en Mongolie. Vous étiez récemment au Pérou. Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain qui vous a inquiété ou qui vous a rassuré ?
Mais c'est vrai qu'on est pris au piège, c'est-à-dire dans le sens où nous sommes des vecteurs de mauvaises nouvelles, nous sommes des messagers de mauvaises augures, et chaque fois que la science nous amène de nouveaux éléments, on est encore là pour les porter. Et je pense que c'est ce qui est terrifiant aujourd'hui, c'est-à-dire que qui a envie d'entendre autant de mauvaises nouvelles ? Et aujourd'hui, je crois que le travail immense qu'il faut faire, c'est arriver à retourner ce message, redonner envie d'avancer, envie de changer, encore une fois motiver les jeunes générations. Et si vous regardez objectivement ce qui se passe dehors, non, ça se passe pas bien, j'ai pas de bonnes nouvelles à vous donner. En revanche, je sais qu'il faut que je lutte contre ce tropisme naturel pour essayer, encore une fois, de relever le défi, puisque c'est d'un défi dont il s'agit.
Vous me faisiez part, quand je vous ai proposé de venir ici, vous m'aviez dit « oui, je suis motivée parce que ma fille m'a fait une réflexion qui m'a choquée ».
Oui, je préparais une interview avec ma fille dans ma voiture et elle me dit comme ça, sans aucun pathos, elle me dit « tu sais, tu vas faire partie de cette dernière génération qui va mourir de vieillesse sur la planète ». Et ça m'a donné une espèce de coup de fouet, comme ça, de crise de conscience. Mais ce qui m'a presque le plus inquiété, c'est le fatalisme avec lequel ces mots-là ont été prononcés. Et on ne peut pas, encore une fois, laisser cette génération porter ça. C'est une question d'éducation, c'est une question de civilisation. J'insiste sur ce mot-là. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à motiver ces jeunes, qu'on leur donne les outils pour s'exprimer, pour s'emparer de ces éléments scientifiques. C'est des gens qui vont voter bientôt, heureusement, et j'attends ça avec impatience.
Patrick Vivray, notre philosophe, pour notre anniversaire, je vous invite à nous rejoindre pour conclure cette émission. Donc Patrick, on a parlé beaucoup de climat, de mobilisation citoyenne, d'émerveillement, de chercher un peu des solutions, mais on sent bien qu'on tourne un peu en rond là.
Moi, ce que je retiens, c'est que chacun des sujets qui a été abordé au cours de cette émission a une double face. Il a évidemment la face sombre, même la face tragique, mais il peut avoir aussi potentiellement une face créatrice. On l'a vu par exemple avec l'Anthropocène, c'est-à-dire l'humanité peut devenir un formidable facteur destructeur, mais l'Anthropocène, c'est aussi la possibilité de l'émergence d'une conscience planétaire. C'est sortir simplement de l'international pour penser le planétaire. Ça, ça entraîne par exemple une conséquence absolument majeure qui est un bouleversement total de la philosophie politique et de la géopolitique. Traditionnellement, le politique s'est construit autour de l'idée de la défense contre la menace extérieure, contre le barbare, l'ennemi, l'étranger, etc. Quand on pense la question à l'échelle planétaire, si on dit est-ce que l'humanité est menacée de destruction ? La réponse est évidemment oui. Mais est-ce que l'humanité est menacée de destruction par des ennemis ou des barbares extraterrestres, en dehors de quelques fantasmes ou de chutes d'astéroïdes ? On voit bien qu'il y a bien un problème de barbarie, mais ce n'est pas un problème de barbarie extérieure, c'est un problème de barbarie intérieure. L'humanité est menacée par sa propre inhumanité et c'est aussi sa propre inhumanité qui l'amène à avoir un comportement destructeur à l'égard des autres espèces. Ça, ça nous conduit à un changement radical de posture parce que regardez ce qui se passe avec des astronautes. Les astronautes, avant d'être astronautes, ils ont été, pour la plupart d'entre eux, pilotes d'essai et même pilotes de chasse. Quand ils étaient pilotes de chasse, ils étaient dans la posture classique de la domination, de la guerre, du surplomb. Quand ils deviennent astronautes, quels sont les mots clés de leur témoignage quand ils voient la Terre vue de l'espace ? Le premier de ces mots, il a été à plusieurs reprises évoqué au cours de cette soirée, c'est le mot d'émerveillement. Et le deuxième mot, c'est le mot de fragilité. À la fois sentiment de fragilité écologique et aussi fragilité de cette espèce si elle ne mute pas dans sa capacité à grandir en humanité. Hein, la question sortir de l'enfance et de l'immaturité émotionnelle pour monter vers la qualité d'humanisation, comme l'évoque Edgar Morin, eh bien, à ce moment-là, cette espèce non seulement peut détruire ses écosystèmes, peut détruire le vivant, mais peut se détruire elle-même. Eh bien, chercher émerveillement et fragilité dans tous les bouquins de géopolitique, depuis l'art de la guerre jusqu'à Raymond Aron, en passant par Clausewitz et Machiavel, vous aurez du mal. Or, la question centrale de la nouvelle géopolitique, elle est là. Elle n'est pas de savoir si la Chine sera la superpuissance du 22e siècle, mais de savoir s'il y aura un 22e siècle. Et donc, pour réussir ça, c'est effectivement la capacité de l'humanité à considérer que le couple fragilité-émerveillement est le couple central de son nouvel art de vivre, parce que la question du bien vivre est l'alternative par excellence à tous les problèmes qui ont été évoqués ce soir. Quand on regarde les rapports des Nations Unies sur le fait que les dépenses de drogue et de toxicomanie, les dépenses d'armement représentent plusieurs fois ce qui permettrait l'accès aux besoins vitaux, la lutte contre la faim, l'accès à l'eau potable, aux soins de base, on comprend bien que nous sommes aujourd'hui dans une économie mondiale du mal-être et du mal de vivre et que l'alternative, elle est effectivement du côté de ce qu'on appelle la frugalité heureuse, c'est-à-dire à la fois la capacité d'arrêter cette course insensée à l'avoir, mais la capacité par contre de monter en qualité d'humanité, de monter en qualité d'amour, de monter en qualité de beauté, et ça, me semble-t-il, ça peut être une bonne nouvelle passionnante.
Eh bien, ça sera la conclusion de cette émission. Merci beaucoup, Patrick Vivray. Alors, avant de se quitter en musique, j'aimerais appeler sur scène celui sans lequel, évidemment, C'est pas du vent manquerait de sel, celui que l'on n'entend jamais, mais qui passe des heures à fignoler les reportages, qui m'a accompagné toutes ces années dans presque tous mes voyages. Mesdames et messieurs, une ovation pour monsieur François Porcheron. François, un petit mot quand même. Il m'a dit, je veux pas parler, surtout tu ne demandes rien.
Non, très rapide, parce que c'est moi qui me colle le montage derrière. Et déjà, on est 10 fois trop long. Non, mais Anne-Cécile, super, 10 ans, enfin pas tout à fait, on doit être à 9 ans tous les deux parce qu'il y avait une ré avant, mais on s'est bien enrichi, je crois, tous les deux, c'est une bonne équipe, en fait, on est des fois d'accord, des fois pas d'accord, mais ça nourrit le débat, et puis merci de m'avoir fait voyager gratos, c'était super.
Est-ce que la direction de RFI est toujours dans la salle? Oui, bon, on en parlera après. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Merci à Mathilde Giraud et à toute l'équipe de Grande Contrôle pour leur accueil, à Benjamin Availlou, à la coordination technique, à Manuela Bermudez, aux réseaux sociaux, à Laure Tamperville, Romain Ferré, Christophe Vallette et Léo Bernard pour la vidéo, à Boris Vichit et Mathias Taylor pour le son. Et on se quitte pour notre plus grand plaisir en musique avec HK et ses amis Saltimbanque, que vous pourrez retrouver au Cabaret Sauvage dans le spectacle Welcome Alikoum du 30 octobre au 2 novembre et au Café de la Danse avec le spectacle Le Cœur à l'Outrage les 4 et 5 décembre. Messieurs, la scène est à vous.
Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore. J'en ai reçu plus qu'à mon tour, j'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village en portant pour seul bagage des restes de rêves d'enfant, des gentils qui gagnent à la fin. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux. Les petits chemins retirés, les routes fleuves et les forêts, les vastes plaines, les hauts plateaux, les grandes villes comme en photo. J'ai marché tant que j'ai pu, tant de fois je me suis perdu. Les trains, les camions, les bateaux, les coups de blues, les coups de couteau. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. Mille fois j'ai fait ce rêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai marché jusqu'à vous, j'ai marché jusqu'à vous. En 2010.